Les maudits sont sans importance. Sans importance. Sont sans importance. Les mots sont sans importance.
Bonjour, la diseuse de mots. Aujourd'hui, je vous propose un deuxième extrait du livre de Jacques Brosse, Mythologie des arbres. La musique choisie est de Saint-Saëns, dans le Carnaval des animaux, le morceau Aquarium. Et la chanson Il y a un arbre de Barbara. Ils ne me firent l'aumône, ni de viande, ni d'une goutte d'eau. J'abaissai les yeux, je les saisis en criant, puis je retombai. Le verbe « j'abaissai les yeux » constitue une bien curieuse image, puisque Odon n'a jamais eu qu'un seul œil et qu'il l'a remis à Mimir. Odin est donc alors aveugle. Comme il ne peut s'agir d'une inadvertance du poète, les yeux d'Odin, qui découvrent les runes, ne sont plus ses yeux, ou plutôt son œil, de chair, mais les yeux de l'esprit. En renonçant à la vue physique, Odin est devenu un voyant. Il s'agit là d'un motif fréquent dans toutes les traditions. Le poète itinérant, le barde celte ou germain, comme le rhapsode ou l'aède grec, tel Homère, est très souvent aveugle et aussi le devin. Leur cécité est donnée soit comme la condition du pouvoir de voyance qu'ils ont reçu des dieux, soit comme un châtiment infligé par ceux-ci, parce qu'ils ont vu ce qu'ils n'auraient pas dû voir. Ainsi, le devin Tirésias, privé de la vue par Athéna, qui l'avait regardée tandis qu'elle se baignait. Ainsi, Œdipe, qui se crève lui-même les yeux en expiation de son double crime et de l'inceste qu'il a involontairement commis. C'est seulement parce qu'ils ne voient plus la lumière physique que ces héros sont admis à contempler la lumière divine. Délivré par la force magique des runes, Odin, malgré son abstinence, se sent soudain rempli d'une vigueur et d'une jeunesse nouvelle. Il est ressuscité, devenu le dieu non seulement des guerriers, mais des poètes et des sages, c'est-à-dire des chamans. Cependant, lui, comme tous les autres dieux, succombera quand viendra Ragnarok, le crépuscule des dieux célébré par Wagner, ou plus exactement le destin des puissances, la fin du monde qu'évoque l'un des plus beaux poèmes des Eddas, la Volupsa, daté des environs de l'an 1000. D'abord, il arrivera un hiver effroyable. Des tourbillons de neige tomberont de toutes les aires du vent, et le soleil ne luira point. Il y aura 3 hivers à la file et pas d'été entre-temps. Ils seront précédés de 3 autres hivers terribles, pendant lesquels il y aura des batailles dans le monde entier. Alors, les frères s'entretueront par appât du lucre, et nul n'épargnera son père ou son fils. Le meurtre et l'inceste régneront. Le loup dévorera le soleil et l'autre loup la lune. Les étoiles disparaîtront du ciel. Le sol et toutes les montagnes trembleront. Elles s'effondreront les unes sur les autres et les arbres seront déracinés. Tous les liens qui jusqu'alors neutralisaient les forces du mal seront brisés et ces forces envahiront le monde entier. Le loup géant, Fenrir, le pire ennemi des dieux que ceux-ci retenaient prisonniers, se débarrassera de ses chaînes et les dieux eux-mêmes seront en grand péril. Tel est leur destin. Car ils ont accumulé, eux aussi, les injustices et les crimes. Alors Odin, chevauchant à la tête de ses troupes, viendra jusqu'à la source de Mimir afin de lui demander conseil. Mais Yggdrasil lui-même tremble et semble près de s'écrouler. Finalement, Odin périra, englouti par le loup Fenrir, et la plupart des dieux disparaîtront avec lui. Thank you. Pourtant, au milieu du cataclysme, Yggdrasil seul aura tenu bon. Après la tempête, la terre sortira de la mer et elle sera verte et belle. Un nouveau soleil paraîtra dans le ciel, que peupleront des dieux, fils de ceux qui moururent, et ressuscité Balder, le dieu bon, dont l'assassinat avait été à l'origine de la catastrophe. Enclos dans le bois même du frêne que les flammes de l'incendie universel n'ont pu consumer, auront miraculeusement survécu un homme et une femme, Liv et Livtrasir, qui auront eu pour toute nourriture la rosée du matin. Prenant possession de la terre restaurée, ils seront les ancêtres de l'humanité nouvelle. Ce couple sorti de l'arbre constitue en somme la réplique des premiers humains qui, à l'origine des temps, furent façonnés par deux souches d'arbres par les dieux Odin, Önir et Lodur, après qu'ils eurent parcouru la terre encore déserte. Ils appelèrent l'homme Askr et la femme Embla. Le mot Askr renvoie aux chaînes cosmiques. Embla est à rapprocher de Embla, l'orme. Par eux fut engendrée la race des hommes. Elle habita Migdar, le monde intermédiaire qui s'étend sur terre entre le ciel et les profondeurs souterraines. Cette idée de faire naître l'homme du bois est commune au patrimoine indo-européen. On la retrouve mentionnée par Homère et Hésiode dans l'expression « deviser du chêne et du rocher », tenir des propos autour du chêne et du rocher, ce qui pour eux signifiait remonter jusqu'aux fables sur l'origine des hommes sortis du chêne et du rocher. Cette association de l'arbre primordial et de la pierre sacrée, menhir, bétil, le mot signifiant dans les langues sémitiques maison de Dieu, omphalos grec, nombril du monde, ou linga indien, est courante dans la plupart des traditions. L'un et l'autre de ces deux éléments étaient considérés comme des réservoirs d'esprit disponibles, de germes prêts à s'incarner, de potentialités d'existence. Ils étaient à ce titre fondateurs. Leur signification symbolique était à la fois opposée et complémentaire. Ainsi que le remarque Jean-Paul Roux, la pierre semblable à elle-même depuis que les ancêtres les plus reculés l'ont érigée ou ont sur elle gravé leur message, est éternelle. Elle est le symbole de la vie statique, tandis que l'arbre, soumis à des cycles de vie et de mort, mais qui possède le don inouï de la perpétuelle régénération, est le symbole de la vie dynamique. Il s'agit là d'une structure cosmique duelle, dont on retrouve la trace aujourd'hui encore chez les Berbères. L'interprétation qu'ils en donnent, traduite sur le plan individuel, permet de mieux comprendre l'un de ces deux aspects qui n'est pas toujours souligné. L'union des deux âmes, principe essentiel de la personne humaine, est représentée par le couple arbre-rocher. L'un représente le principe femelle, l'autre le principe mâle. Dans les traditions populaires, l'arbre donne sans doute l'ombre et l'humidité à Nef, l'âme végétative, mais il est surtout le support de Ru, l'âme subtile, qui vient s'y percher comme un oiseau. Nef est présente dans le rocher ou dans la pierre. Les sources jaillissant des pierres ne sont que les symboles de la fécondité venue du monde d'en bas. Des vestiges du culte rendu au couple arbre et pierre sont également décelables dans le plus lointain passé. Un article publié en 1901 de Sir Arthur Evans, qui fouilla et restaura le site de Chronos, soulignait la solidarité entre la vénération de l'arbre et celle qui entourait les pierres sacrées. Il indiquait que ce culte conjoint était passé de Crète en Grèce, par exemple à Athènes, où l'on honorait ensemble un pilier et l'olivier sacré d'Athéna. C'est certainement à de tels usages, qui de leur temps déjà n'étaient plus que d'obscures survivances, qu'Homère et Hésiode font allusion. Chez les Germains de l'époque historique, les croyances relatives aux frênes cosmiques se sont aussi longtemps perpétuées. Pour eux, l'univers était supporté par un arbre gigantesque. Certaines tribus élevées sur les hauteurs des piliers, faits du tronc d'un très gros arbre. L'un d'eux nous est bien connu, Irminsul, le pilier cosmique qui pour les Saxons soutenait la voûte céleste. L'universalis columna, quasi substintens omnia, du chroniqueur Rudolf von Fulda, idole qui fut détruite en 772 par Charlemagne au cours de son expédition contre les Saxons. C'est également autour d'un tronc équarri, sur lequel reposait toute la charpente, que les Germains édifiaient leurs habitations, lesquelles constituaient autant de microcosmes, le toit représentant la voûte céleste soutenue par l'axe cosmique. À la fin du 1er siècle de notre ère, Tacite décrit le sanctuaire des Sémones, peuple germanique qui occupait un vaste territoire entre l'Elbe, l'Oder, la Werta et la Vistule. C'était une forêt, consacrée dès longtemps par les augures de leur père et une pieuse terreur. Là, à des époques marquées, tous les peuples du même sang se réunissent par députation et ouvrent, en immolant un homme, les horribles cérémonies d'un culte barbare. Tout, dans les superstitions dont ce lieu est l'objet, se rapporte à l'idée que c'est le berceau de la nation, que là réside la divinité souveraine, que hors de là, tout est subordonné et fait pour obéir. Le bois des Sémones était donc bien un centre du monde, comme celui d'Uppsala en Suède païenne, que nous connaissons par la description des îles de l'Aquilon, d'Adam, chanoine et écolâtre de Brême au XIe siècle. Dans ce temple, qui est tout recouvert d'or, on vénère les statues des trois dieux, Thor, Odin et Freyr. À proximité de ce temple, il y a un arbre, extrêmement grand, qui étend largement ses branches et reste vert aussi bien en hiver qu'en été. Il y a un arbre, je m'y colle dans le petit bois de Saint-Amand. Je t'attrape, tu t'y colles, je me cache à toi maintenant. Il y a un arbre, pigeon vole dans le petit bois de Saint-Amand. Où tournent nos rondes folles, pigeon vole, vole, vole au vent. Dessus l'arbre, l'oiseau vole et s'envole, voilà le printemps. Y a nos 15 ans qui s'affolent dans le petit bois de Saint-Amand. Vous pouvez me retrouver tous les mardis à 9h45 sur Jet FM ou en podcast. Laissez-moi vos impressions, vos commentaires, peut-être vos suggestions aussi, pourquoi pas, à propos de ma chronique. En m'écrivant à ladiseusedemots@gmail.com. ladiseusedemots tout attaché @gmail.com. À bientôt!